Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Christian Jambet, pour parler de la philosophie islamique. Christian Jambet, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez la philosophie en islam à l'École pratique des hautes études. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages portant sur la spiritualité et la philosophie en langue arabe et persane, parmi lesquels « L'acte d'être », La philosophie de la révélation selon Moula Sadra Shirazi, chez Fayard, Le cachet et l'apparent, aux éditions de Lerne, et votre dernier ouvrage, Qu'est-ce que la philosophie islamique, chez Gallimard, dans la collection Folio Essai. Alors, la première question sera toute simple. Pour un occidental, la notion de philosophie islamique a quelque chose de choquant. Le titre même peut être choquant, puisque finalement, on se dit où on est dans la philosophie, c'est-à-dire dans l'usage de la raison, où on est dans l'islam, c'est-à-dire dans la révélation. Alors, comment peut-on parler de philosophie islamique alors qu'on ne parlera pas, par exemple, de philosophie chrétienne ?
On parle de philosophie islamique, c'est une expression qui, je crois, maintenant est reçue un peu partout. Dans le monde, enfin, c'est une expression véritablement devenue assez commune, enfin, du moins acceptée, pour deux raisons. La première, c'est que tous les philosophes dont on parlera et qui méritent d'une manière ou d'une autre ce nom de philosophe se reconnaissent tous dépendants ou tributaires d'une manière ou d'une autre de l'horizon que procure la révélation de l'islam, c'est-à-dire la révélation prophétique. Alors, islamique est une manière de résumer tout un ensemble de données, parmi lesquelles la plus importante, c'est probablablement le fait de se sentir, d'une manière ou d'une autre, hein, plus ou moins librement. Je disais dépendant ou tributaire, ça voudrait dire peut-être une servitude, mais en tout cas, assigné à penser dans les termes de l'intelligence ce qui a été présenté aux croyants de l'islam sous une forme imagée ou sous une forme que nous pourrions dire ou mythologique ou en tout cas ou poétique ou en tout cas autre que celle de l'intellect. Voilà, c'est la définition la plus large, je crois, qu'on pourrait donner.
Alors, en même temps, pour revenir à mon objection, pour creuser un petit peu les choses, même si j'entends tout à fait ce que vous dites, la question s'est posée dans le monde occidental chrétien. Saint Thomas d'Aquin disait « la philosophie est la servante de la théologie ». C'est-à-dire qu'au fond, la philosophie n'est pas autonome. L'usage de la raison doit être au service de la révélation. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait définir la philosophie islamique ?
Non, parce que bien sûr, il y a des théologiens de l'islam. Mais ces théologiens de l'islam, ou ce qu'on appelle ainsi, ce sont les artisans de la controverse rationnelle au service des données de la foi, qui ont d'ailleurs eux-mêmes constitué des systèmes qui mériteraient d'être intégrés à la philosophie, parce que il traite de questions comme la liberté, l'essence de Dieu, les attributs divins, la réalité du monde, la question du temps, etc., des questions qu'on rencontre en philosophie occidentale, évidemment, sans arrêt. Mais ces théologiens ne sont pas constitués en magistère unique. Il y a des théologiens mu'tazilites, des théologiens acharites, plus tard il y aura des théologiens chiites, il y a des théologiens de diverses écoles, mais ils n'ont absolument pas autorité à revendiquer ce rapport de la raison à la révélation. Je ne dis pas à la foi, hein, je dis bien à la révélation comme espace culturel et espace intellectuel et moral et spirituel d'ensemble. Alors les philosophes, ceux qu'on appelle ainsi en tout cas, ne se sont absolument pas gênés pour revendiquer non seulement l'autorité rationnelle touchant la plupart des questions qui nous sont familières depuis les Grecs, mais également ce qu'on appellerait l'autorité théologique. Et on peut même dire que c'est eux qui, avec quelquefois une certaine audace, revendiquent le fait d'être les seuls vrais théologiens. Alors ça permet d'ailleurs de dire qu'ils n'ont pas eu à se délivrer de ce statut d'ailleurs honorable, hein, d'être servant de la théologie, mais ils ont eu à assumer une tâche un peu différente et un peu plus lourde, qui était de proposer une théologie spirituelle, là où l'islam, essentiellement, a produit une immense conception du monde qui est à base, quand même pour prendre le triomphe de la science principale, hein, à base juridique. La grande discipline théologique, au sens vraiment de la théologie pratique en matière d'islam, c'est la science du droit. Alors face à la science du droit, ils se sont sentis des ailes, voilà, je dirais ça. Donc c'est un autre rapport, hein, au théologique.
Alors je reviens une dernière fois, et après je vous promets, je vous laisse tranquille avec cette question-là.
Ah non, mais c'est une vraie question, et puis elle a été posée par d'éminents maîtres, à commencer par Renan, ce qui n'est pas peu.
Et est-ce que vous pensez que ces philosophes, donc qui se considèrent comme des philosophes en terre musulmane, et qui se distinguent des juridiques ou des théologiens, dans la conception que nous avons en Occident aujourd'hui de la philosophie, où la raison doit être tout à fait autonome par rapport notamment à toutes les révélations religieuses, est-ce que vous pensez qu'ils ont une véritable autonomie de la raison, ou elle reste quand même à un moment donné soumise à la foi de manière ultime?
Elle n'est pas soumise à la foi parce que, d'abord, ceux qui traitent vraiment de questions ayant rapport à Dieu, aux décrets divins, aux anges et au monde spirituel, prétendent constituer eux-mêmes la vraie foi. C'est ça qui est frappant, c'est-à-dire qu'ils décident de manière rationnelle de ce qui est le contenu, non pas littéral, mais intelligible et spirituel de la foi. Donc ils n'y sont pas exactement servis. Puis alors, deuxièmement, il y a évidemment tout un tas de problèmes proprement philosophiques je ne sais pas, pour en prendre un comme ça au hasard, la question du rapport de l'âme et du corps. Est-ce qu'il y a incorporation ou pas incorporation? Est-ce que l'âme est la forme du corps? Quel est le rapport entre l'esprit et l'âme? Est-ce que l'intelligence est une intelligence séparée, pas une intelligence séparée?
Ce sont des questions
qui sont analogues à celles de Leibniz, de Descartes ou de Bergson.
Ou des philosophes grecs. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui, au nom de cette réflexion philosophique, puisse dire quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui est écrit dans le Coran?
Non, parce qu'en islam, mais vous me corrigerez éventuellement, il n'y a pas de sortie. C'est un univers à la fois infini et clos, pour penser à des gens qui vivent, encore une fois, hein, entre, mettons, le 10e siècle et le 19e siècle. Je ne parle pas d'auteurs contemporains qui seraient totalement indépendants de la conception du monde de l'islam. Mais dans l'islam, en tant que culture dominante et même prégnante de tout un tas de réalités nouvelles, il n'y a pas d'issue, enfin, c'est-à-dire il n'y a pas de dehors. Donc la seule voie pour trouver une issue hors de ce qui, à nos yeux, est un carcan théologico-juridique ou littéraliste, c'est l'intériorité. C'est creuser, c'est aller en intériorité. Et justement, c'est ça d'ailleurs qui rend aussi difficile l'abord des textes et qui des fois fait barrage. Hein, ici, je ne me le cache pas, mais peut-être autant pour d'autres cultures, hein, mais en tout cas pour celle-là, c'est qu'on doit trouver le moment où, dans l'œuvre, l'auteur trouve son autonomie, sa liberté, hein, son esteklar, comme on dit, qui est une valeur morale extrêmement importante, mais non pas en sortant, mais en rentrant plus profond dans le texte.
D'où la naissance de toute la mystique musulmane.
Voilà, et après ça, on s'aperçoit, par exemple, que l'auteur appellera Coran quelque chose qui n'a rien à voir avec le Coran du commun.
Oui. Alors, une spiritualisation du Coran.
Voilà, une spiritualisation, une intériorisation et un processus d'élaboration qui est en interne, comme on dirait aujourd'hui. En intériorité, en tout cas.
Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour. Oui, en effet, je crois que vous avez tout à fait raison de pointer cette... D'ailleurs, vous le creusez vous-même, je dirais que la dynamique de votre livre est aussi une dynamique de creusement, comme si elle épousait le sujet, en quelque sorte. Mais je voudrais revenir tout à l'heure, vous avez parlé d'Avicenne et de l'âme, justement. Et je voudrais que vous nous situiez Avicenne comme le père de la philosophie islamique, comme Socrate a été celui de la philosophie grecque, et donc que vous nous le resituiez justement par rapport à la fois à cette philosophie grecque, dont il était l'héritier, en partie du moins, et aussi par rapport à la révélation. Parce que justement, il me semble qu'Avicenne est un de ceux qui a montré qu'il y a un lieu de la liberté au sein même de la révélation et de son rapport à la révélation.
Oui, donc c'est un philosophe, homme politique, médecin, peut-être avant tout médecin des corps et médecin des âmes, qui a vécu en notre Xe siècle, qui est un homme qui a une vie d'aventure. Il faut quand même le rappeler, en deux mots, cet homme qui ne cesse de fuir, qui a fui les Mahmoud de Hazna, le parti, disons, turc sunnite, qui était un pur iranien. C'est-à-dire que le fondateur de la philosophie islamique et qui écrit en arabe est un homme qui n'a jamais quitté la sphère de l'Iran. C'est aussi quelque chose qu'aujourd'hui on pressent mal, c'est-à-dire la dimension de la terre d'islam à l'époque où se déploie la philosophie islamique. C'est que c'est un monde quasiment sans frontières et où l'Orient, c'est-à-dire quelque chose qui correspondrait aux anciens territoires de l'Asie soviétique, et joue un rôle de centre, aussi bien que Bagdad et aussi bien que Cordoue.
Et rappelons ces dates, donc ces 10e, 11e siècle,
oui,
hein, il a vécu entre les siècles.
Fin 10e siècle, début 11e siècle. Et c'est un homme qui meurt à 57 ans, si je ne me trompe, c'est-à-dire à l'âge où Kant commence, lui, à avoir une œuvre autonome.
D'avoir trop bu.
Oui, c'est ce qu'on a dit, ce qui n'est pas du tout impossible. C'est un homme qui a, en effet, qui a un rôle fondateur, non pas parce que c'est tout à fait le premier, mais parce que c'est le plus systématique et probablement le plus inventif des falacifa, comme on les appelle, c'est-à-dire les philosophes héritiers de la Grèce et de la tradition hellénique. Et à la fois, il construit plusieurs sommes, la principale étant le livre de la guérison, sur le modèle du système d'Aristote, qui lui est transmis par quelques-uns de ses prédécesseurs, le plus auguste étant Al-Farabi, qui est d'origine turque ou iranienne, mais de langue arabe lui aussi. Mais Avicenne est aussi un des pères fondateurs de la langue persane moderne, et tout en construisant un système, au fond, analogue à la logique, la physique, la métaphysique d'Aristote, Il rédige d'abord des récits spirituels, des récits mystiques, des poèmes spirituels sur des problèmes philosophiques. Il a une correspondance considérable et il valorise dans la pensée grecque et en particulier dans la pensée néoplatonicienne ce qui peut lui permettre, un des tout premiers, de revendiquer ce rôle d'interprète de la révélation dans ce qu'elle a d'essentiel. Alors, pour finir de vous répondre, il faut bien voir que pour un homme, enfin, à mon sens, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, pour un homme comme Avicenne, le Coran n'est pas un livre essentiellement voué à produire des commandements juridiques. Il y a, bien sûr, une soixantaine de versets qui portent là-dessus, mais c'est essentiellement un livre eschatologique qui porte sur les fins dernières, et en particulier sur des problèmes qui touchent au rapport entre la vie en ce monde et la vie dans l'autre monde. Alors, évidemment, on trouve chez lui toutes les postulations. D'une part, en bon aristotélicien, il ne croit pas aux versets coraniques qui, littéralement, promettent une récompense physique dans l'autre monde, dans le paradis et dans l'enfer, mais d'un autre côté, il en prend la charge pour en donner une version ésotérique ou une version métaphorique qui pense le destin de l'âme. Et chose, et je finis, parce que évidemment, si on se lance dans Avicenne, c'est infini. Il a un rôle, à mon avis, considérable, parce qu'il pose les questions métaphysiques à partir du rapport de soi à soi. Ça rejoint votre question, monsieur Lenoir, c'était cette question de l'indépendance. Quand même, il est un des premiers, je crois que Sora Vardy fera la même chose ensuite, à partir de ceci qui est la conscience de soi.
Alors justement, je vous ai apporté un poème d'Avicenne, parce que, évidemment, les textes philosophiques sont un petit peu plus difficiles à lire à la radio, et surtout que c'est un très beau texte dans lequel, en réalité, il reprend ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il pose une métaphysique en termes poétiques, en même temps, il pose une indépendance et il pose des questions auxquelles il n'est pas sûr de pouvoir répondre, ce que je trouve très émouvant de la part d'un Avicenne qui est considéré comme quand même la référence absolue en matière de métaphysique et d'autres questions philosophiques. D'où vient cette colombe ? En sa grandeur qui la défend, une colombe est descendue vers toi, du plus profond des cieux, dérobée au regard de tout initié. Pourtant, elle n'était couverte d'aucun voile. Elle arriva sur toi contre son gré, peut-être affligée, aura-t-elle horreur de te quitter. Pudique, elle ignorait la familiarité, mais s'unissant à toi, elle prit l'habitude d'être en contact avec la ruine désertée. Elle oublia, je crois, tout ce qui l'attachait au lieu mystérieux, au temps qu'inaccessible, les séjours qu'elle avait abandonnés dans la joie. Ainsi, s'étant unie à ce monde sensible, loin du centre idéal, sur les sables arides, et saisie par le corps pesant, elle demeure au milieu des débris et des chétifs décombres. Quand elle se souvient de ce qui l'attachait au monde inaccessible, elle verse des pleurs qui coulent sans arrêt très abondamment. Elle demeure là, gémissant dans le corps comme on gémit sur les reliefs d'un campement, effacé par les vents qui passent et repassent. Car le filet serré la tient. Sa déchéance l'écarte des régions sublimes et immenses qui forment un séjour fait d'éternel printemps. Mais quand elle est enfin proche de son départ de ce monde, elle peut renoncer à ce corps qu'elle laisse et qui ne la suit point à la terre liée. Elle dormait. Soudain, le voile est écarté. Elle aperçoit enfin l'univers de l'esprit, ce que les yeux du corps ne voient point en leur nuit. Alors elle recoule à la cime d'un mont. La véritable science élève les plus humbles. Pourquoi du haut sommet dut-elle donc descendre jusqu'au point le plus bas, au pied de la montagne ? Si pour quelque motif Dieu l'a précipité, ce motif reste caché même à l'homme subtil. Si par un coup fatal sa chute fut causée, afin qu'elle attendît ce qui n'était pas ouï, qu'elle connût tous les secrets de l'univers, elle n'a pas atteint l'objet de son effort. Le temps suivant son cours lui a coupé la route, et l'astre s'est couché pour ne plus se lever. Elle est comme un éclair qui luit sur ce bas monde, puis passe comme s'il n'avait jamais brillé.
Thank you.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel, en compagnie de Christian Jambet pour parler de la philosophie islamique à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Qu'est-ce que la philosophie islamique ?» chez Gallimard Folio Essai. Alors, vous avez abordé déjà dans la première partie de cette émission l'influence qu'ont eu les philosophes grecs, puisque vous parliez de l'influence d'Aristote, notamment chez Avicenne. Je pense que c'est utile de revenir sur cette question qui est méconnue et qui suscite bien des malentendus. Racontez-nous un petit peu comment s'est fait cette découverte des Grecs par le monde musulman, dans quel contexte, à quelle époque, et comment cette philosophie a été utilisée, interprétée pour nourrir la philosophie islamique.
Il y a deux grands moments, au fond, d'apport. L'un correspondant à l'essor du califat abbasside à Bagdad, donc 9e, 10e siècle, et aussi un autre moment peut-être antérieur, qui est l'essor de... disons, des philosophies grecques dans le monde chrétien oriental, pour aller à l'essentiel, puisque des thématiques essentielles, par exemple, de l'œuvre d'Aristote, ont pu être aussi bien transmises par les écoles perses chrétiennes, nestoriennes en particulier, que par... ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie, c'est-à-dire la transmission du néoplatonisme hellénisant au monde arabe, au monde de langue arabe en tout cas, après, disons, la parenthèse de l'Empire omeyyade. Ça, c'est pour, disons, les faits dans leur brutalité, comme ça. Mais quant aux besoins, alors on dispute pourquoi on a eu besoin des Grecs. Alors, il y a les besoins politiques, ils ont été élucidés, entre autres par Goutas et d'autres, que les califats aient eu besoin d'une structure de pensée de cet ordre. Il faut tout de même bien voir que, quand on dit les Grecs, bien sûr, c'est Aristote et Platon, et puis Pythagore, et puis Galien, et puis derrière eux, l'ensemble de la science grecque qui déferle par l'intronisation qui leur est accordée, par le biais des traducteurs, souvent d'ailleurs d'origine chrétienne et nestorienne. Mais ce qui est au total essentiel dans cet apport aristotélicien, platonicien, néoplatonicien, bien sûr ce sont des philosophèmes, ça intéresse, pourrait-on dire, l'archéologie des choses. Mais du point de vue de l'inspiration, et je repense au poème d'Avicenne que vous lisiez, ces philosophes poser des questions qui rencontraient ce qui semble bien être, si je comprends le poème d'Avicenne, de véritables obsessions permanentes, transhistoriques, qui seront celles de nos penseurs en islam. Le destin de l'âme, le mouvement qui va de la patrie céleste jusqu'à l'exil terrestre et retour, la question du cosmos, et une question qui s'est posée aussi dans le christianisme, qui est celle de la visibilité ou non de Dieu. Je dis ça de manière brutale. C'est-à-dire, y a-t-il moyen d'accéder à un Dieu transcendant, le Dieu monothéiste, par toute une série de médiations? De là le succès de textes comme, par exemple, trois des Énéades de Plotin, qui ont été traduites en arabe sous le titre « Théologie d'Aristote », donc Aristote est devenu l'auteur des œuvres de Plotin, tout un tas de recueils de sagesse et d'apophthegmes et de textes attribués au divin Platon et à son maître Socrate, pour ne parler que d'eux, mais aussi la fascination pour une histoire de la philosophie. Je pense à un auteur récent, plus récent en tout cas, qui était Ashkevari, qui en a fait une véritable transcription, on peut dire, cosmique, qui va d'Adam jusqu'au Moyen-Âge. Pour eux, au fond, le monde n'a jamais cessé de philosopher. C'est d'ailleurs ce que dit Sohrawardi. Voilà, l'importance des Grecs, c'est d'avoir fourni des réponses, ou en tout cas d'avoir posé des questions, comme celles qu'on trouve dans Phédon, dans le Phèdre.
Oui, sur l'immortalité de l'âme.
Sur l'immortalité, oui. Enfin, répondre à ces questions, qu'est-ce que je fais là alors que j'ai une conscience d'être moi indépendamment de mon corps, qu'est-ce que je fais dans une crypte ténébreuse? Bon, ça renverrait aussi à d'autres origines qui sont en particulier iraniennes de ces questions. Qu'est-ce que je fais? Au fond, qu'est-ce qu'il en est de cette angoisse de l'existence alors que, manifestement, tout peut me convaincre que j'ai une origine divine? De là que, évidemment, cette question sans cesse répétée, trouvant des réponses différentes, touche à l'essence de la philosophie grecque. C'est-à-dire oui. qu'on est vraiment comme au début du Phédon. Je le cite évidemment parce qu'il est souvent cité. La philosophie, c'est vouloir mourir. Vouloir mourir à ce monde. Alors ces Grecs passent pour des maîtres extraordinaires puisqu'ils enseignent un tout petit peu ce qu'enseigne le prophète lu par les philosophes, c'est-à-dire « ce bas monde ne vaut rien, toute chose va périssant hormis sa face », comme dit le verset coranique, et donc il s'agit de s'évader au plus vite d'ici-bas.
Oui, au fond, ils ont fait quelques siècles avant ce que feront les théologiens chrétiens avec Thomas d'Aquin, Albert le Grand, etc. Absolument. C'est-à-dire d'essayer de raisonner à partir des catégories philosophiques de la Grèce pour mieux comprendre la révélation et ce qui est donné dans la dimension religieuse.
Et l'essentiel de cette dimension religieuse qui est d'annoncer que le destin n'est pas ici-bas, mais qu'il s'agit de se réveiller et de penser à ce qui se passe après la mort, oui. que ce soit sur le plan moral, on a envie de dire même presque sur le plan judiciaire, hein, le jugement, mais également sur le plan du destin.
Oui, tout à fait.
Mais alors, justement, vous avez parlé de rationalité et de raison. Peut-être qu'il faudrait ici faire une petite précision sur ce qu'on entend par là, parce que ce n'est pas exactement la même chose, j'ai l'impression. Vous avez tout un chapitre, en fait, sur la question des intelligences. Et ce mouvement d'intelligence, une intelligence qui est en fait un mouvement de remontée, n'est pas exactement ce que nous appelons en philosophie occidentale, il me semble, du moins, la rationalité ou le recours à la raison. Puisque chez Avicenne, plus tard chez Sohrawardi, chez tous ces immenses philosophes que l'on dit philosophes, c'est là que, je dirais, ils rejoignent d'une certaine façon la mystique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans cette espèce de raison qui est la norme extérieure des choses, mais véritablement dans un événement intérieur qui les fait remonter d'intelligence en intelligence vers quelque chose qui est bien au-delà de la simple raison rationnelle ou ratiocinante.
Discursive.
Voilà. Oui, oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une distinction de la raison discursive qui est, disons, la logique de l'entendement et qui est utile pour connaître les rudiments des sciences. Parce qu'enfin, en même temps, ce sont des esprits assez empiristes qui partent du sensible pour aller vers l'intelligible. Donc au début, par exemple, pour prendre l'ordre des sciences, hein, que la physique, les mathématiques supposent évidemment la raison discursive. Mais le acle, l'intellect, c'est véritablement la faculté qui consiste au fond à réfléchir le particulier dans l'universel. Et avoir les correspondances qui permettent de dégager l'ordre. C'est la faculté de l'ordre. Alors, aujourd'hui, la philosophie s'intéresse peu à la notion d'ordre, et plutôt une philosophie de la multiplicité. Là, bien, il s'agit d'intégrer toutes les multiplicités dans un ordre extrêmement complexe, un petit peu analogue à celui des enluminures ou de l'esthétique islamique. Je crois que c'est la meilleure image qu'on pourrait proposer. C'est-à-dire, et un peu au sens où Leibniz parlait d'intégration, c'est vraiment l'idée de produire, c'est la faculté qui permet de produire le tout, mais un tout d'une richesse non exclusive. Et puis alors, au sommet, il s'agit de voir. Mais je suis très frappé.
C'est-à-dire de contempler.
Oui, et même de voir. Il y a cette phrase que j'ai trouvée dans un texte portant sur le rapport du philosophe aux vérités coraniques, et qui dit, c'est de mon cher Moulla Sadra, mais je crois que d'autres pourraient le dire, le philosophe, qui est arrivé à ce degré de contemplation, en effet, voit ce que les autres ne voient pas, il entend ce que les autres n'entendent pas. Alors qu'est-ce que c'est qu'une intelligence qui voit? Ça nous renvoie à Platon et à la théoria, à la notion de théoria. Donc il y a l'idée d'un contact, une sorte d'empirisme supérieur, immatériel, et c'est quelque chose évidemment de très, à la fois de très grec, fait et qui renvoie aussi aux théologies mystiques de l'Occident. Parce qu'on a ça, bien sûr, chez les théologiens mystiques de l'Occident.
Et la distinction scolastique classique entre la ratio et l'intellectus, c'est-à-dire la raison discursive et l'intelligence qui est faite pour contempler de manière ultime Dieu.
Voilà. Et l'idée que, un des objets de vision, sans parler de la vision ultime de Dieu, c'est de voir les rapports, les vraies relations. Et par exemple, le philosophe prétendra être un bon herméneute du Coran, même le meilleur, parce qu'il voit des relations là où les autres n'en voient pas.
Et c'est aussi sans doute pour cela que, comme d'ailleurs chez Platon et dans le néoplatonisme aussi, la métaphore de la lumière joue un rôle si fondamental. Absolument. Et d'ailleurs, c'est une philosophie qui s'exprime quand même beaucoup en métaphore. Oui. Ça, c'est une spécificité quand même, il me semble, de cette...
Ça culmine, en fait. Vous avez raison, vous lisiez le poème de l'âme. Il faut bien dire, pour ne pas être unilatéral, que l'on passe un temps fou dans la dialectique, mais c'est aussi à les homologues des philosophes occidentaux, dans la dialectique préparatoire, et puis d'un seul coup, il y a en effet l'image. Et vous avez raison, la lumière joue un rôle essentiel et pas métaphorique. Pas métaphorique, c'est une image, mais ça ne veut pas dire que la lumière intelligible ne serait pas une vraie lumière. C'est une vraie lumière.
Oui, j'entends métaphore dans le sens, métaphore vive, dans le sens de Ricœur.
Voilà. Non, là, il s'agit vraiment réel, oui. d'un symbole puissant, et il y a donc une forme de croyance qui peut sembler naïve, c'est vrai, dans une réalité de la lumière et des ténèbres. Quand on dit la ténèbre des corps, c'est qu'il y a une métaphysique du corps qui est une métaphysique de la distance, du non-rapport à soi. Ce serait très intéressant, ça intéresserait aujourd'hui les penseurs, parce que c'est un thème indépendant. Que le corps, ce soit ce qui est toujours séparé de soi-même, ce qui est assez vrai, et donc inconscient de soi. Que le corps, ce soit l'inconscient. Et que la conscience soit toujours lumière et proximité. Ben, ce sont des thématiques vécues, et elle aussi transhistorique, puisque on les retrouve quand même, quelles que soient les écoles.
Alors justement, le grand maître de la lumière, c'est un philosophe qui vous est cher, qui était très cher aussi à Henri Corbin, si je ne m'abuse, qui est donc Sora Vardi, justement, dont le titre était Cheikh Al-Eshor, c'est-à-dire le maître de l'illumination, et donc le père de ce qu'on a appelé la philosophie illuminative, enfin, ou des lumières, ou de l'Orient des Lumières, dont vous allez peut-être nous dire quelques mots. Mais avant, justement, je vais vous donner une lecture d'un extrait du livre de la sagesse orientale de Sora Vardi, qui a donc vécu au XIIIe siècle. Et c'est précisément un passage sur la lumière. Et puis, peut-être que ça vous permettra de nous commenter à la fois ce texte et la philosophie de Sora Vardi. Sur les frères de l'esseulement illuminent des lumières et elles comprennent plusieurs catégories. La lumière d'un éclair se présente aux novices, elle fulgure et se replie comme la fulguration d'un éclair délicieux. Se présente aussi aux autres la lumière d'un éclair plus vif que celle-là et qui ressemble plus à l'éclair, sauf que c'est un éclair grandiose. Souvent l'on entend en même temps que lui un bruit qui ressemble à celui d'un tonnerre ou un bourdonnement dans le cerveau. Une lumière soudaine et délicieuse dont l'irruption ressemble à ce que serait celle d'une eau brûlante sur la tête. Une lumière qui persiste un temps assez long, qui subjugue avec violence et qui s'accompagne d'une sorte de torpeur dans le cerveau. Une lumière extrêmement douce qui est sans ressemblance avec l'éclair, mais qui est accompagnée d'un état d'allégresse subtile et tendre, étant mise en vibration par la puissance de l'amour. Une lumière qui embrase, se mouvant du mouvement de la puissance qui domine, et parfois qui se manifeste par un concert de timbales et de trompettes, de choses qui terrifient le débutant, ou bien qui affectent avec force l'entendement. Une lumière qui fulgure dans un rapt immense, qui se révèle à la contemplation et à la vue, plus manifeste que le soleil, dans une jouissance ravie. Une lumière très éclatante, extrêmement douce.
Du bist du mein Zwinger, 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 du bist du m
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel en compagnie de Christian Jambet. Nous parlons de la philosophie islamique. Lélie Anvar vient de nous lire un texte de Sahawardi. Je crois que vous vouliez réagir, Christian Jambet.
Oui, c'est un texte qui, si je me souviens bien, est dans le livre 5 de la deuxième partie de la Sagesse orientale.
Oui, c'est la deuxième partie en tout
cas. C'est la deuxième partie. Et ça me rappelle le mot de Corbin, puisque vous citiez notre bon maître Henri Corbin.
Et la traduction d'ailleurs.
Et la traduction d'Henri Corbin, qui disait le livre La Sagesse orientale de Sahawardi, qui a donc péri victime de l'intolérance des docteurs de la loi et de Saladin. C'est le propre de ce livre, c'est de commencer par une réforme de la logique et de finir par un mémento d'extase. Ben, je ne peux pas trouver mieux comme expression pour désigner le texte que vous lisiez. C'est un texte très étonnant, même eu égard à ce livre, parce qu'il est très personnel. Je veux dire par là que c'est en effet un mémento, c'est un aide-mémoire de ce qui lui est arrivé comme expérience spirituelle. Et ça reconduit à ce que vous disiez précédemment, qui est que, et en effet, dans cette philosophie, on ne peut absolument pas séparer complètement ce qui est de l'ordre expérimental et ce qui est de l'ordre théorique. Et que pour, en tout cas pour Sahawardi, et c'est le rôle qu'il a joué, qui est immense, il a à la fois préservé, pourrait-on dire, l'identité de la philosophie comme telle, avec sa racine grecque, sa revendication, pourrait-on dire, philosophique autonome. Et en même temps, il y a intégré ce qu'il rencontrait dans le soufisme de son temps, 12e siècle, et puis ensuite ses successeurs, 13e, 14e siècle, en effet, et qui était d'avoir produit une expérience mystique spécifique à l'islam. Et cette synthèse que nul autre n'avait faite, parce qu'on avait des pieux soufis et même des soufis héroïques, Hallaj, pour ne citer que le plus connu, et puis on avait des philosophes de très grand talent. Cette synthèse a déterminé le cours de la philosophie islamique ultérieure, sans parler de l'autre synthèse qu'il a opérée, c'est-à-dire le monde de l'islam et le monde iranien.
Oui, et il me semble effectivement, vous avez raison, ça court dans tout votre livre. Ce qu'on voit quand même, c'est que jamais la philosophie est loin de cette exigence de l'éthique, de la connaissance de soi, d'une expérience absolument concrète et intérieure de tout ce qui est dit par la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie purement spéculative semble être étrangère à tous ces penseurs.
Elle prépare. À la fois, on a des moments spéculatifs, quelquefois non seulement scolastiques, mais même un petit peu lassant, fastidieux. Et puis, pas chez Sahawardi.
Voilà, mais ce sont des moments.
Le livre de la Sagesse orientale a quelque chose d'un peu miraculeux qui serait à comparer à ses réussites littéraires en philosophie que sont, je ne sais pas, la monadologie de Leibniz ou le Tractatus de Wittgenstein, enfin ça, à ce côté-là. Mais des fois, ça peut être très fastidieux. Mais alors, le moment important, c'est le moment final. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est du ma'ad ? Qu'est-ce qu'il en est du retour vers Dieu, vers soi-même ? Quel est le moment de la conversion, pour parler en termes plotiniens ? Et donc, on explique la procession, la descente, l'élaboration des sciences physiques et même métaphysiques, en vue de ce retour à soi et à Dieu. Et alors, évidemment, ça n'est évidemment pas unique. De ce point de vue, la proximité avec les penseurs chrétiens ou les kabbalistes juifs, etc., est considérable. Mais il y a évidemment ceci, qu'il n'y a pas de médiation pour le philosophe équivalente au Christ. Il faut quand même le point, quand même, c'est que le modèle doit être constitué, et ça va être le modèle de l'homme parfait, qui doit beaucoup au legs du christianisme oriental, c'est une évidence, mais qu'il faut construire sur une base qui n'est pas la christologie des églises chrétiennes et qui est l'exemple prophétique. Et alors, on voit que l'expérience mystique est un petit peu à cheval entre le legs de l'expérience prophétique et puis une expérience personnelle qui prétend, le texte que vous lisiez le montre, à une communication directe avec les lumières célestes et les lumières de l'intelligence. c'est probablement la plus grande différentielle quand même qu'il y ait avec ou la mystique chrétienne ou la théologie chrétienne, même dans sa forme la plus audacieuse, parce que là, il y a une différence dogmatique, hein, si j'ose dire.
Et une chose que j'ai relevée tout à l'heure dans ce que vous avez dit par rapport à ce lien justement avec le christianisme, il y a eu des influences réciproques beaucoup plus importantes que ce qu'on connaissait ou qu'on croyait connaître. J'ai appris de votre bouche que finalement ils ont connu les philosophes grecs essentiellement par des chrétiens. C'est-à-dire
entre
à la fois
autres,
des chrétiens historiens, entre autres. Mais l'école d'Alexandrie, c'est les Grecs directement, parce que c'est la dernière école de l'Antiquité.
Oui, exactement, oui, c'est la transmission. Il faut bien voir que Mohammed, c'est le 7e siècle.
Oui.
Les conquêtes sont immédiates. Hein, le siècle suivant, c'est le siècle des conquêtes. Et donc, le legs alexandrin tombe avec armes et bagages dans les mains des musulmans. Et quand on parle du monde de l'islam médiéval, il faut bien voir que si on parlait en termes de nombre, d'abord les premiers conquérants et ceux qui occupent les villes garnisons qui vont servir de lieux éponymes et même de lieux de fondation de nouvelles villes, c'est quoi? C'est 100 000 personnes. Donc la majorité des intellectuels, des cadres, ce sont des gens qui tombent sous une nouvelle domination, disons ça, historique, mais qui restent avec leurs croyances et leur savoir, quel que soit ensuite leur ralliement ou leur conversion. C'est vrai pour le monde iranien, c'est vrai pour le monde grec alexandrin.
Voilà. Et alors, ce qui m'intéresse aussi de savoir, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est sur la transmission ensuite, le rôle que vont avoir un certain nombre de penseurs musulmans, de philosophes musulmans qui ont intégré la philosophie grecque sur l'Occident chrétien. Et là, il y a une polémique célèbre. Je voulais juste avoir en quelques mots votre avis, puisqu'on a longtemps dit que l'essentiel de la transmission des Grecs est passé via les Arabes. Et puis, il y a eu Sylvain Guggenheim qui a publié, je crois, Aristote au Mont-Saint-Michel il y a quelques années, qui nous dit pas du tout, l'essentiel est passé directement de Byzance par des traductions comme notamment le Mont-Saint-Michel, et donc qui a beaucoup minimisé le rôle des Arabes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense d'abord que me semble que quand même on n'avait jamais dit que c'était par les Arabes d'Andalousie exclusivement que c'était passé, mais je ne peux pas jeter la pierre, parce qu'on a beaucoup jeté la pierre à Guggenheim, et puis il y a eu des querelles, maintenant elles sont achevées, il y a eu des livres, et puis une réponse, et puis...
Alors on en est où, justement, la vérité historique?
Du point de vue historique, on en est au même point, c'est-à-dire qu'il y a évidemment de multiples afflux, et byzantins, musulmans, et autres divers, pour ce qu'il en est, de l'apport aristotélicien. Mais d'autre part, dire que cet apport était tombé dans une terre vierge, ça, je crois quand même personne ne l'a pensé sérieusement. Et si c'est pour réaffirmer que le christianisme avait une vie philosophique intérieure avant que les commentaires d'Averroès n'arrivent, bien sûr. Mais simplement, moi, cette querelle me paraît porter le regard sur quelque chose d'inessentiel. Je veux dire par là que nous savons parfaitement que, grâce à Averroès, dont l'œuvre est absolument considérable, j'ai envie de dire inimitable, Aristote, mais pas seulement, mais enfin principalement d'Averroès, Aristote a joué l'Aristote d'Averroès, commenté par lui, sur la base de traductions qui étaient d'ailleurs antérieures. Il y a toute une épaisseur de traduction d'Aristote avant. Joue un rôle considérable dans les questions de la théologie juive et de la théologie chrétienne, et crée toute une série de problèmes d'une importance capitale, eu égard au fait qu'Averroès, pour des raisons lui-même théologiques, dans le monde almohade, a décidé de revenir à ce qu'il jugeait être la lettre d'Aristote en la débarrassant de tous les recouvrements, entre autres les recouvrements avicéniens qu'il jugeait morts et d'une certaine manière justement critiqués par la critique du soufisme sunnite et des théologies rationnelles du sunnisme, comme celle de Razali. Donc ce grand moment qui est très connu et qui est en effet essentiel, qui est la critique de l'avicénisme par Razali, la critique de Razali par Averroès, l'œuvre incroyablement riche
c'est qu'à l'époque Averroès, redites-nous le...
Fin XIIe siècle et la transmission au XIIIe siècle. Donc ceci joue un rôle évident, et nous le savons depuis Renan. Et Renan en a fait la métaphore de la lutte contre la papauté. Bon, l'Averroès est devenu, malgré lui, le symbole du libre-esprit. C'était un juriste tributaire d'un mouvement insurrectionnel messianique et qui met Aristote au service de ce mouvement. Voilà. Donc, que dire de la querelle ? Oui, donc... Je dis qu'elle déplace le regard hors de ce dont nous parlions, je crois, loin de ce dont nous parlions, que les philosophes musulmans valent pour eux-mêmes. Pour finir de vous répondre, moi je suis frappé du fait qu'au XVIIe siècle, qui est la période peut-être d'essor le plus considérable après Sohrawardi, et je suis évidemment, je laisse de côté la dimension philosophique d'un homme aussi considérable qu'Ibn Arabi. Au XVIIe siècle, il y a des ambassadeurs occidentaux en permanence en Iran. Il y a des voyageurs. Il y a, je crois, si je ne me trompe, un cousin de Jean-Jacques Rousseau enterré à Ispahan. Eh bien, nos philosophes ne se soucient pas de nous. Je veux dire, les philosophes d'islam ne se soucient pas de nous, occidentaux. Et ils ne se soucient pas de nous donner leur philosophie. Avicenne a écrit pour lui. Il n'a pas écrit pour nous transmettre les Grecs. Donc, moi, je dirais, Guggenheim, au fond, a bien fait de dire que l'affaire de la transmission du monde grec au monde arabe et du monde arabe au monde chrétien était peut-être surévalué. Je ne serais pas d'accord avec certains de ses propos ou certaines tonalités, parce que je ne crois pas qu'il soit exagérément islamophile. Hein. Bon, on ne va pas dire ça, je crois que ça ce serait quand même exagéré. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment pour servir la cause de l'universalité de la pensée islamique qu'il a écrit son livre. Mais si c'est pour revenir à cette effervescence intellectuelle en elle-même et pour elle-même, alors pourquoi pas ?
Cette émission des Racines du Ciel arrive à la fin avec l'agenda culturel d'Élie Anvar.
Oui, alors je voudrais vous signaler la parution de deux livres qui me semblent continuer tout à fait les propos que Christian Jambet nous a tenus ici. Le premier, c'est un livre de Mohamed Ali Amir Moezi, Le Coran silencieux et le Coran parlant. C'est un livre absolument remarquable sur la constitution du corpus coranique, dans lequel Amir Moezi montre le lien qu'il y a entre la manière dont ce corpus s'est constitué et la violence qui a été congénitale à la naissance de l'islam. Il montre à quel point ce texte est un texte eschatologique. Il va même jusqu'à dire que le Coran a été falsifié. Il explique pourquoi, et essentiellement pour des raisons politiques. C'est une lecture absolument époustouflante. Je crois que Christian Jambet est d'accord avec moi, puisque je l'ai entendu le présenter brillamment, justement, au CNL. En tout cas, voilà, le Coran silencieux, le Coran parlant. Alors, évidemment, Amir Omoïzi s'appuie beaucoup sur un certain nombre de textes chiites tout à fait inconnus, y compris des musulmans, hein, pas seulement, évidemment, des occidentaux. Et il nous montre que, évidemment, l'étude d'un texte à travers l'interprétation qu'en ont fait ceux qui ont été considérés comme hérétiques est éminemment intéressant parce que ça nous permet de comprendre finalement quelle a été la nature de ce texte et comment il a été reçu dès ses premiers temps, donc par les premiers musulmans. Donc le Coran silencieux et le Coran parlant aux éditions du CNRS. Le deuxième livre, c'est aussi aux éditions du CNRS, c'est un livre de Souad Ayada qui s'intitule « L'islam des théophanies, une religion à l'épreuve de l'art ». Alors, dans ce livre, Souad Ayada explique comment l'esthétique musulmane nous montre quelque chose de la vision du monde de l'islam et de la philosophie islamique, mais pas seulement, de la spiritualité musulmane dans son ensemble. Et elle montre comment cette question de la théophanie relie la religion musulmane profondément à la question de l'amour et de la beauté et à la question de la contemplation qu'on a évoquée un peu brièvement. Et donc, voilà, elle nous propose en fait une lecture, elle est philosophe elle-même de formation, et elle nous propose en fait une lecture esthétique de ce texte, mais une esthétique habitée évidemment des plus hautes idées mystiques.
Et puis, bon, évidemment, nous n'avons pas pu aller aborder tous les thèmes très riches que vous abordez dans votre ouvrage. Nous avons à peine évoqué la dimension spirituelle, nous n'avons pas parlé du tout de la dimension politique, fruit aussi de tout cet effort philosophique dans le monde musulman. Donc, je renvoie à votre livre pour tous les auditeurs que cela intéresse. Qu'est-ce que la philosophie islamique aux éditions Gallimard, Folio, Essai. Merci beaucoup, Christian Jambet.
Merci, merci.
Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Nicolas Grimaldi qui nous parlera du jansénisme. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous.